Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire, communiquer et collaborer sur le web donné à l'UTC par Stéphane Crozat et dont les détails et les supports de cours se trouvent sur librecours.net. Je suis Audrey Guélou et je suis actuellement en studio avec Lucas, Manon, Julie et Guillaume. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors, on est donc dans une troisième semaine de présentation des étudiants et étudiantes de WE1. Vous avez tous les quatre, donc comme les autres étudiants et étudiantes, préparé, travaillé sur un projet qui consiste donc à écrire, à publier sur le web un dossier thématique qui aborde une problématique technologique du web. Vous avez choisi le thème des coûts du numérique et des controverses économiques et énergétiques relatives au numérique. Alors, la semaine dernière, on avait écouté l'intervention sur ce créneau, on avait écouté Léonie, Florine, Pauline, Anna et Armand sur le thème des Smart Cities. Et puis, en début d'après-midi, tout à l'heure, Stéphane était avec deux groupes d'étudiants qui nous ont parlé de données personnelles et puis des enjeux environnementaux du stockage des données, entre autres. Voilà, donc vous pourrez retrouver tous les podcasts de ces présentations sur le site l'instance Peertube, aperi.tube, chaîne WE1. Et puis, les autres étudiants et étudiantes du TD de WE1 sont toujours en forme et écoutent votre intervention. Ils sont en poste sur Mattermost pour vous poser quelques questions que je vous relayerai donc au micro. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Vous êtes prêts? Alors, Lucas, à toi la main.
Donc, on va aujourd'hui vous faire une présentation des différents impacts du numérique sur l'environnement, ainsi que des controverses qui l'entourent. Dans un premier temps, je vais m'attarder sur le problème de la 5G. Puis Guillaume nous parlera des data centers et de leur impact sur l'environnement. Enfin, Manon mentionnera les difficultés à analyser les impacts du secteur et abordera la question dans les pays en développement, pour finir avec Julie qui fera une analyse des solutions existantes. Donc la 5G, ça a été désigné comme la prochaine génération de réseau mobile. Ce nouveau réseau rejoindra donc les générations précédentes qui sont la 3G et la 4G. Le but principal est d'augmenter la vitesse de transfert des données et de nombreuses technologies comptent s'appuyer dessus, telles que les voitures autonomes, l'Internet des objets ou encore le jeu vidéo en streaming. Cependant, la technologie a été le sujet de différentes controverses récemment et c'est ce dont nous allons parler dans cette partie. Je me suis basé sur un dossier très complet de Gauthier Roussil qui date du 1er avril 2020 et je me suis concentré sur les controverses économiques et énergétiques. Nous allons tout d'abord présenter le fonctionnement de la technologie. Donc la 5G repose sur une première bande de 700 MHz qui sert aujourd'hui partiellement à la 4G, ainsi que sur une seconde bande de 3,4 à 3,8 GHz et une troisième de 26 GHz. Donc la première bande, celle de la 4G, a un faible débit, mais une grande portée et une bonne pénétration des bâtiments, tandis que les autres ont une portée beaucoup plus faible. Donc déjà, il y aura les antennes 4G qui subiront une mise à jour pour permettre la connexion à la 5G. Mais les autres bandes étant plus faibles en termes de portée, en termes de pénétration des bâtiments, il faudra installer un grand nombre d'antennes 5G, notamment dans les milieux urbains. Ce qui mène au premier problème, qui est la controverse économique. Donc en effet, l'infrastructure à déployer présentera un coût important. Par exemple, en Europe, c'est estimé entre 13 000 euros et 17 000 euros par antenne. Et à cela s'ajoute le prix à payer pour les opérateurs, pour payer les bandes de fréquence, qui est pour les opérateurs français de l'ordre de 350 millions d'euros pour la bande. Donc c'est un prix qui va se répercuter sur le prix des forfaits, et c'est pour ça que ça a entraîné cette première controverse. Et on en vient à la seconde controverse, qui est celle énergétique. Donc le numérique a un impact non négligeable sur l'environnement, et la 5G aura une forte tendance à augmenter le trafic mobile. Le numérique consomme 3% de l'énergie mondiale début 2020. Cette consommation croît aujourd'hui de 9% par an, alors qu'elle est censée, selon les accords de Paris, diminuer. De plus, la 5G mènera à l'augmentation de la fabrication de terminaux mobiles, qui nécessitent des métaux et terres rares, et qui représentent une grande consommation d'énergie en termes d'extraction, de transport, et l'exploitation de travailleurs dans des pays où le code du travail n'existe pas vraiment. Pour donner quelques chiffres, en 2020, il y avait 6 milliards de téléphones mobiles actifs sur Terre. Donc c'est un chiffre qui, depuis, a augmenté, bien sûr. Et 1,4 milliard ont été produits rien qu'en 2018. Et le problème, c'est que tous ces smartphones devront être renouvelés pour pouvoir prendre en charge la 5G, ce qui implique un impact conséquent sur l'environnement. Il est estimé que la 5G pourrait augmenter le trafic par mille d'ici 2025-2030, donc le trafic des données. Et cependant, en fait, il est possible de limiter cet impact en effectuant des recherches sur l'efficacité énergétique. Les recherches actuelles se concentrent majoritairement sur la réduction de la consommation d'électricité à l'usage et non sur le coût énergétique lié à la fabrication des terminaux ainsi qu'à leur renouvellement. Et en fait, ça s'explique parce que ces recherches sont soutenues par les opérateurs qui, comme nous l'avons vu, devront limiter leur facture d'électricité parce que la prise en charge de la 5G va mener à une facture assez salée. Donc, pour illustrer ça, pour illustrer le problème de la fabrication des terminaux, notamment lié au renouvellement lié à la 5G, on va écouter un extrait d'un débat sur l'impact de la 5G sur l'environnement de Médor, qui est un magazine belge et coopérative d'investigation.
On parle de l'invisible ici. On parle, donc vous avez mis en avant, l'infrastructure, l'extraction des minerais, la fin de vie. C'est tout ce qui est invisible pour les populations ici, locales, ici en Belgique. On ne voit plus les mines et on ne voit plus les déchets électroniques. Donc c'est important de le répéter, effectivement, on vit dans un monde où l'invisible prend de plus en plus de place. Il faut innover avec des limites. C'est un petit peu le message que vous voulez passer ici avec cette histoire. Vous avez tout à fait raison. Il faut savoir qu'au niveau de l'ingénierie, on ne nous a jamais demandé de réfléchir, de designer, d'innover en considérant, en intégrant ces limites planétaires. Il faut le faire aujourd'hui. Ça ne se fait pas encore. Le recyclage, on n'a pas beaucoup parlé ici d'économie circulaire. C'est souvent des mots qu'on retrouve beaucoup dans des textes de politique nationale ou européenne. Quand on parle de micro, nanoélectronique, des objets électroniques connectés, il faut être très clair. On ne peut pas recycler ces objets-là. C'est très, très clair. Les entreprises les plus au fait de recyclage de la microélectronique, on peut citer en Belgique une société comme Umicor, reconnaissent que sur les 60 éléments, vous voyez le tableau de Mendeleïev, avec tous ces éléments-là chimiques, on utilise 60. C'est parce que toute la table, sauf les radioactifs. Donc on utilise pratiquement tous les matériaux qu'on peut imaginer pour mettre dans un smartphone, pour juste prendre cet exemple. C'est la même chose pour les panneaux solaires, c'est la même chose pour les batteries, pour les voitures électriques, etc. Donc on utilise tout ça. Pardon ?
Non, pardon, mais il y a des initiatives qui existent justement pour essayer de recycler les vieux smartphones.
Tout à fait. Imaginez-vous, quand je dis 60 éléments, c'est une soupe assez incroyable. Et donc techniquement, chimiquement, il est impossible d'aller, en tout cas dans les connaissances actuelles de la recherche, impossible d'aller retirer ces 60 éléments. On parle de mine urbaine, c'est un peu une erreur. On arrive à retirer au mieux une quinzaine, on va dire, de ces éléments. Et quand on parle avec Umicore, ils nous disent qu'on pourra en extraire 4 de manière rentable si vous gardez de l'or dans vos circuits électroniques. L'or paye.
Merci Lucas pour cette explication très claire donc des quelques controverses économiques et énergétiques de la 5G. Alors c'est vrai que les débats autour de ces technologies sont généralement assez animés, parfois manichéens, mais qu'en tout cas il est parfois pas évident de se positionner en ayant tous les éléments en tête. Mais ce qui est bien, c'est que comme espéré, on a quelques questions des étudiants et étudiantes de W1 sur la 5G. Alors par exemple, tu vois, il y a Daniel qui se demande si la 5G est vraiment utile pour une utilisation domestique. Donc c'est vrai, si ça sert plutôt des utilisations industrielles ou domestiques, peut-être que tu penses à ça, mais est-ce que la 5G est vraiment utile pour l'utilisation domestique? Et sous-entendu, est-ce que la 4G n'est pas suffisante pour une utilisation domestique? Est-ce que tu aurais quelques éléments là-dessus?
Pour une utilisation domestique, il y a déjà d'autres technologies qui existent, comme par exemple, là elle l'a dit, la 4G, rien que le Wi-Fi. Après, ce que la 5G pourrait éventuellement apporter, c'est au niveau de la rapidité du transfert des données et de pouvoir intégrer peut-être, d'autres éléments Par exemple, je sais que dans un immeuble, on pourrait connecter l'immeuble. Je ne sais pas, peut-être créer des technologies là-dessus qui seraient communes à tous les locataires. Après, c'est vrai que dans une maison, avec alors c'est la smart house, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est, de mon point de vue, c'est pas primordial vu qu'il y a déjà des technologies qui existent et qui fonctionnent assez bien. Bon après, c'est toujours toujours chercher une rapidité de transfert des données supérieure. Je sais pas si ça répond.
Oui, oui, merci. Merci, Lucas. Et puis, tu réponds du même coup, je pense, à la question de Lucie qui se demandait, qui posait la question des caractéristiques spécifiques à la 5G qui poussent à une telle dépense économique, énergétique, de par sa mise en place. Alors, écoute, il y a Florine qui répondait aussi, qui rebondit, je pense, à l'extrait que tu as proposé, Lucas. Elle se dit, donc, on a vu dans la, et elle rebondit aussi sur l'intervention des groupes qu'on en a entendu précédemment, donc avec de 14 à 16. Alors, on a vu dans l'intervention des autres groupes tout à l'heure que, de toute manière, la durée de vie moyenne des smartphones est de 3 ans. Du coup, 5G ou pas, on change très souvent de téléphone. Est-ce que la 5G impacte vraiment la fréquence de changement de téléphone, se demande Florine.
En fait, alors la durée de vie moyenne, le fait qu'on renouvelle sans la 5G les téléphones, c'est surtout lié à du marketing, comme par exemple Apple qui va essayer de faire en sorte qu'on ait toujours le dernier iPhone avec la publicité, etc. Mais aussi au niveau des applications. Et c'est pour ça aussi, bon ça c'est un autre sujet, mais essayer de concevoir, d'éco-concevoir les applications pour éviter qu'elles demandent trop de ressources en termes de processeurs, etc. Parce que par exemple, un téléphone d'il y a 10 ans, il y a certaines applications qui aujourd'hui ne tourneront absolument plus en fait. Après, c'est le problème de toujours vouloir aller chercher plus loin. Peut-être qu'on devrait éviter d'aller chercher plus loin. Le problème avec la 5G, c'est que ça va rendre complètement obligatoire, en dehors de, des applications qu'on a sur notre téléphone ou bien du marketing, on ne peut pas du tout on ne pourra pas du tout utiliser le réseau 5G avec un téléphone qui ne le prend pas en charge. Mais c'est vrai que, en effet, le taux de renouvellement des téléphones actuellement est très important. Donc, ouais.
Merci Lucas, merci. En effet, hein, toute cette question des renouvellements des terminaux, mais du renouvellement des infrastructures, aussi des antennes. Hein, tu as parlé du fait que certaines antennes utiles à la 4G pourraient être mises à jour, pourraient être utilisées dans le réseau 5G, mais qu'il faudra aussi construire, mettre en place de nouvelles antennes pour la 5G. Donc la question après, c'est de savoir si on pose donc l'hypothèse qu'on ne renoncera pas à la 5G de toute façon qui est déjà en route, on peut peut-être se demander en tout cas comment il est prévu de gérer la construction de ces nouvelles antennes. Est-ce qu'il est possible par exemple d'en mutualiser entre les opérateurs pour en construire le strict minimum? Enfin, c'est vrai qu'il y a peut-être des enjeux comme ça, des moyens de réduire les coûts énergétiques, économiques de la 5G.
Je pense qu'ils vont s'arranger, ouais, comme ça... comme ils le font déjà, j'espère pas dire de bêtises, mais au niveau des DSLAM dans la rue, ou qu'ils essaient de se partager les bandes quelquefois, les câbles. Après, pour compléter, du coup, j'avais un truc à ajouter sur ce qu'a dit Florine. Le problème, je pense, c'est que certaines applications, du coup, sans la 5G, par exemple dans la rue, comme on avait parlé, les smart cities, etc., ne seront pas peut-être pas disponible pour des personnes qui n'ont pas de téléphone qui supporte la 5G. Et là, ça demande un renouvellement de téléphone qui est de l'ordre de milliards, en fait, surtout dans les grandes villes. Donc voilà, c'était pour rebondir là-dessus.
Merci Lucas, merci. Non, c'est vrai, remarque intéressante, merci. Et je relais aussi juste le commentaire, la remarque de Lucas, Lucas Bendina sur Mattermost, qui précisait que la 5G a aussi été pensée pour la mobilité IP, donc pour des utilisateurs qui se déplacent, et donc on va avoir des applications dans les voitures autonomes, les transmissions de données médicales dans les ambulances, etc. Bien, alors on continuera peut-être ce débat sur Peertube après, quand le podcast sera publié ici. En tout cas, c'est un sujet, c'est sûr qu'il pas fini d'être discuté, mais on va poursuivre de notre côté avec Guillaume. Guillaume, tu vas nous présenter une partie qui va se concentrer sur la question des data centers, c'est ça?
Exactement.
Allez, à toi, Guillaume.
Alors moi, je vais vous parler des data centers, donc qui sont au cœur de l'Internet d'aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous définir ce que c'est un data center. Donc un data center se définit comme un bâtiment d'hébergement qui accueille un ensemble d'infrastructures numériques, donc par exemple des équipements de calcul, de stockage ou de transport de données. Donc un data center est doté de systèmes de refroidissement et de récupération de chaleur, ainsi que d'équipements de secours, donc des batteries ou des groupes électrogènes, pour répondre en cas de panne. Donc un data center peut aussi contenir différentes technologies en fonction des besoins qu'il a. Donc par exemple, pour un data center spécialisé dans le calcul haute performance, plusieurs serveurs peuvent être dédiés à ce calcul. Ou pour augmenter sa capacité de stockage, les data centers peuvent utiliser plus de baies de stockage. Donc le problème des data centers aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération numérique et donc que leur nombre s'accroît fortement. Et c'est notamment dû au développement très important du service cloud qui suscite la création continue de nouveaux data centers. Donc le Natural Resource Defense Council estimait qu'en 2014, il manquait 12 millions de serveurs dans les data centers américains pour supporter l'ensemble des besoins des activités numériques. Donc le problème de cette croissance permanente, c'est que si le nombre de serveurs augmente fortement, la pollution augmente forcément. Et c'est à quoi nous sommes confrontés de nos jours. Les data centers sont des enjeux importants dans les problèmes écologiques liés au numérique. Et pour illustrer cela, je vais vous présenter quelques problèmes liés aux data centers. Donc le premier problème qu'on peut voir, c'est les matériaux qu'ils composent. Donc c'est un problème qui s'étend au-delà des data centers. Parce que, par exemple, les ordinateurs ou les téléphones sont composés tous les deux de métaux rares, dont des terres rares, dont l'extraction se fait en grande quantité en Afrique, dans des conditions épouvantables. Et par conséquent, la croissance du nombre de data centers augmente forcément le coût humain, qui est très important, et le coût écologique. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la consommation électrique, qui est très préoccupante. Donc selon l'ATEE, l'Association Technique Énergie Environnement, près de 415 TWh, soit près de 2% de la consommation électrique mondiale en 2015, sont utilisés pour alimenter des data centers en énergie. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus important que la consommation électrique que toute la Grande-Bretagne, qui est à peu près de 300 TWh. Et en plus de cela, cette électricité est utilisée à 50% donc pour le fonctionnement des serveurs et des ordinateurs, mais surtout l'autre moitié est exclusivement utilisée pour les systèmes de climatisation et de refroidissement. Car oui, un des gros problèmes des data centers, c'est la régulation de leur température. Donc les serveurs sont des ordinateurs qui chauffent énormément et qui doivent, pour fonctionner, être correctement refroidis. Donc toute cette énergie dépensée n'est là que pour réguler la température des serveurs pour assurer leur fonctionnement. Donc je vais vous passer un extrait de France 24 où Frédéric Bordage, consultant en éco-conception au Green IT, présente sa vision de la pollution d'Internet.
Alors la pollution Internet, elle ne fait que commencer, pour la simple et bonne raison que jusqu'à maintenant, il n'y avait que des humains qui étaient connectés à la toile, à l'Internet. Et aujourd'hui, les études parlent de 20 à 75 milliards d'objets connectés. Ça veut dire que vous allez avoir votre voiture, votre frigo, que vous allez avoir votre montre, que vous allez avoir je ne sais quel objet connecté qui va se mettre à dialoguer, à se raccorder à la toile, à l'Internet. Et donc, 6 milliards d'êtres humains, 75 milliards d'objets connectés. Vous imaginez le tsunami, en fait, environnemental qui arrive avec les objets connectés.
Internet qui pollue, c'est une fatalité ?
On peut réduire l'empreinte de l'Internet en s'appuyant sur une démarche qui est standardisée au niveau mondial, qui s'appelle l'éco-conception. Ça consiste à constater que nos sites web, tous nos services en ligne sont gras, de leur faire faire un régime. On parle aujourd'hui d'obésiciel. Donc la posture, c'est d'enlever tout ce qui est bling-bling et de se concentrer sur l'essentiel. Il faut imaginer Google d'un côté, Yahoo de l'autre. On a un Google qui est totalement épuré. Vous avez un champ, vous saisissez votre mot-clé, ça s'arrête là. De l'autre, vous avez Yahoo qui vous propose les cours de bourse, la météo, des interviews, l'actualité. Pour rendre Internet plus écolo, il faut épurer, il faut dégraisser. Donc c'est autant de gras numérique qu'on n'a pas à transporter dans les tuyaux et à afficher sur l'ordinateur de l'internaute.
Les grands d'Internet ont donc fait leur révolution, à nous, internautes, maintenant, de faire pareil. Et on commence par limiter ses envois de mails inutiles, faire le tri dans sa boîte de réception, mettre ses sites préférés en favoris plutôt que de taper dans un moteur de recherche, ou comment réaliser facilement derrière son bureau de précieuses économies de CO2.
Alors oui, quelques actions simples comme jeter ses vieux mails est bénéfique et cela évitera de faire tourner des ordinateurs 24 heures sur 24 et leurs climatiseurs pour vous rendre accessibles des données dont vous n'avez pas du tout besoin. Donc dans cet extrait, M. Bordage définit le concept d'éco-conception qui est actuellement une voie empruntée par de nombreux chercheurs et constructeurs. Donc par exemple, les nouvelles générations de serveurs ont permis de limiter au cours du temps la consommation électrique. Donc en effet, selon une étude de The United States Data Center Energy Usage Report de 2016, on observait aux États-Unis que la consommation électrique des data centers a eu tendance à augmenter plus légèrement sur la période 2010-2014 que sur la période 2005-2010, passant d'une augmentation de 24% à une augmentation que de 4%. Donc même si le nombre de data centers a augmenté, la croissance de leur consommation a eu tendance à diminuer. Et donc ce résultat est assez encourageant et je pense qu'il doit nous permettre d'engendrer d'autres nouvelles technologies pour nous permettre de limiter ce coût. Merci pour votre écoute.
Merci Guillaume, merci à toi pour merci d'avoir mis en lumière la matérialité des sites web que l'on visite et puis de cette partie majeure de l'infrastructure d'Internet que sont les data centers. Alors, tu vois, par rapport à justement l'utilisation de data centers elles-mêmes, Léo se demande si un Internet décentralisé polluerait moins.
Alors, pour cette question, je pense que le bénéfice d'être centralisé, c'est que la gestion de l'énergie c'est une grande quantité de gestion. Et donc, l'effort est fourni par une grosse force. Donc, je pense que ça permet de limiter le coût de pollution des data centers. Parce que la puissance du data center, c'est que tout est regroupé au même endroit. Et donc, c'est plus facile d'agir dessus. Mais la décentralisation a des bénéfices parce que ça éviterait par exemple les problèmes de chauffage parce que tout regroupé au même endroit, ça crée forcément plus de chaleur.
Oui, en effet, c'est une composante qui compte. Et puis, tu vois, tu nous parlais du nécessaire refroidissement des data centers. Et ça pourrait rejoindre la question de Danaï qui se demande comment mesure-t-on la pollution émise par les data centers ? Est-ce qu'on a des idées d'indicateurs de ça
La pollution, elle peut se mesurer déjà par le coût de construction des matériaux, donc tout ce qui est dans les usines des serveurs et tout. Après, la consommation en électricité, donc d'où l'électricité provient, si c'est des énergies fossiles, des énergies carbonées. Donc ça a un coût énergétique et donc un coût en pollution qui diffère.
Oui, d'accord, entendu. Merci Guillaume. Je garde la question de Solène peut-être pour un petit peu plus tard peut-être je vous la pose maintenant, mais à tous les quatre, je vais souffler aussi Guillaume un petit peu, parce que c'est une question un petit peu plus générale. Solène qui se demande si face à l'urgence écologique, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de déterminer des limites dans l'innovation numérique, et si oui, comment déterminer ces restrictions et comment les imposer aux GAFAM en particulier. Est-ce que quelqu'un, l'un de vous, veut bien répondre ?
En fait, ouais, c'est, j'en avais un peu très rapidement parlé tout à l'heure. On pourrait en fait éco-concevoir les produits qu'on fait aujourd'hui, notamment les applications, les sites internet, s'il y a des ressources qui existent là-dessus pour limiter le plus possible, enfin apprendre à éco-concevoir et limiter le plus possible tout ce qui est utilisé. Par exemple, certains sites vont faire des requêtes absolument partout pour pouvoir tracer entre les sites pour faire de la publicité ciblée. Ça, c'est très énergivore et du coup, on pourrait s'en passer. Pareil, faire des applications bien conçues, c'est-à-dire bien programmées qui ne demandent pas beaucoup trop de ressources. Donc oui, c'est possible de le faire. C'est nécessaire, selon moi. Après, pour imposer ces restrictions aux GAFAM, je pense que c'est un peu plus compliqué. On pourrait leur imposer peut-être des quotas de gaz à effet de serre émis. Ça, je pense que c'est possible, même si on voit que c'est un petit peu compliqué à faire surtout au niveau des accords de Paris, etc. Mais oui, voilà, pour moi c'est nécessaire. Après, c'est comment les imposer aux GAFAM, je pense que c'est de l'ordre politique, donc...
En effet, ça se joue après sur le plan législatif. Tout à fait, Lucas. Ok, alors Manon, est-ce que tu es prête pour enchaîner sur une troisième partie qui poursuit un petit peu ces réflexions-là, bien sûr. Allez, c'est parti, Manon, à toi la main.
Bonjour. Alors, je vais maintenant aborder les impacts du secteur numérique en commençant avec un extrait d'une conférence de Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, sur lequel je reviendrai par la suite, lors de la présentation du rapport final sur la sobriété numérique en 2020.
Le numérique aujourd'hui, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est à peu près pour moitié chaque année la fabrication des terminaux. Donc la moitié, c'est la fabrication des serveurs, des ordinateurs, des éléments de réseau, des smartphones. Et l'autre moitié, c'est le fonctionnement, car je rappelle que dans le monde, les deux tiers de la production électrique, c'est d'origine fossile, charbon et gaz. Et que cette électricité qui alimente l'ensemble du dispositif fait à peu près la moitié de l'empreinte carbone de l'ensemble. Le problème de l'affaire, ce n'est pas juste que 4% ça représente l'équivalent de la flotte mondiale de camions, c'est aussi qu'au train où ça va, c'est-à-dire une augmentation de l'ordre de 8% par an, eh bien, dans 5 ans, les intérêts composés vous disent que ça représenterait l'équivalent de la flotte mondiale de voitures. Donc le numérique aujourd'hui, malheureusement, ne concourt pas du tout à la préservation de l'environnement. Ce n'est pas parce qu'il est smart qu'il est sobre en carbone, malheureusement.
Les impacts du numérique ne posent question que depuis récemment, au vu de la croissance exponentielle de ce secteur. Le numérique est aujourd'hui mondialement présent, notamment grâce à la mondialisation. On peut l'illustrer grâce aux propos de la Banque mondiale en 2016. Dans les pays en développement, les ménages qui possèdent un téléphone mobile sont plus nombreux que ceux qui ont accès à l'électricité ou à de l'eau salubre. Il est cependant encore de nos jours difficile d'avoir accès à des informations concrètes sur les impacts à grande échelle de ce secteur. En effet, de nombreux paramètres rentrent en compte dans chaque scénario de consommation d'énergie dans ce secteur, et donc un bilan exact peut être considéré comme quasi impossible à établir avec nos moyens. Ce manque d'informations a un impact clair dans la transition pour une sobriété numérique. Je vais donc aborder ici un rapport qui a été publié en 2018 suite à l'appel de The Shift Project. The Shift Project, vous en avez peut-être entendu parler, est une association dont le but est de saisir les enjeux liés à la transition énergétique dans différents domaines. Dans cet objectif, le groupe de travail LINICT a été formé pour travailler sur les impacts écologiques du secteur du numérique et leur rapport aborde différents points que j'aimerais mettre en avant. Dans un premier temps, la problématique de manque d'informations quantitatives précises a été étudiée. En effet, il est plus facile de se rendre compte de l'impact d'un trajet en avion ou en voiture que de celui de l'utilisation d'un ordinateur pendant un temps défini. Il en est donc ressorti un référentiel environnemental du numérique qui n'est autre qu'un fichier Excel établi après de longues études suivant différents scénarios. Cet outil indique clairement l'impact en quantité de CO2 rejeté, par exemple, d'un appareil électronique durant sa phase de production ainsi que durant sa phase d'utilisation. C'est un premier outil qui regroupe des informations concrètes sur des pratiques que nous avons tous et toutes au quotidien. Par ailleurs, différents écosystèmes numériques ont été étudiés dans ce rapport. Avec de nombreux paramètres pris en compte, le but fut de mieux comprendre les impacts pour mieux prendre des décisions par la suite. Dans le bilan carbone des entreprises, le numérique occupe une part de plus en plus importante. Cela peut atteindre jusqu'à plus de 30% pour des entreprises de services et est donc désormais à prendre en compte. Une approche de type Green IT, qui est centrée sur l'optimisation des performances de tous les équipements numériques, que ce soit appareils, architectures, applications et services, est utile, mais ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Pour une entreprise, il a été proposé une approche modèle qui se trouve être assez pertinente. Le but est de proposer aux entreprises des méthodologies de calcul de leurs impacts, notamment en émissions de gaz à effet de serre, que celles-ci pourraient utiliser de manière autonome, se sentant d'autant plus concernées. Plusieurs exemples de pratiques peuvent par la suite être proposés en fonction du résultat de ces études. Autant dans une entreprise qu'à une échelle individuelle, il est fortement recommandé d'allonger au maximum la durée de vie de ces équipements, la phase de production ayant une part importante dans l'impact environnemental de celui-ci. Par exemple, l'entreprise peut souscrire à des contrats de maintenance performants et gérer les règles d'amortissement comptable des équipements pour que ceux-ci soient moins renouvelés. D'autres nombreuses propositions ont été évoquées par The Shift Project que vous pourrez retrouver en ligne. La question des pays en développement peut également se poser. Le taux d'équipement en téléphone portable est en 2018 de l'ordre de 80% dans les pays en développement. Cependant, la plupart n'a accès qu'à la technologie 2G et près de 60% de la population mondiale n'a toujours pas accès au web. Au vu de cette problématique, il est assez complexe de se soucier de la participation de ces pays à l'écologie numérique, d'autres problématiques étant prioritaires. Le prix de l'usage d'Internet est parfois complètement décalé par rapport au pouvoir d'achat ou encore à la maîtrise des interfaces qui peuvent poser des problèmes de lecture ou d'écriture. Le numérique a été établi comme un réel levier de développement et a un grand potentiel pour le développement durable dans ces pays-là, car il permet l'accès à l'information et donc le développement des sociétés du savoir. La question se pose alors de la maîtrise dans les années à venir de la révolution numérique dans ces sociétés-là. Ce rapport a été suivi de deux autres rapports de The Shift Project, Climat, l'insoutenable impact de la vidéo en ligne, en 2019, et Déployer la sobriété numérique, en 2020, que je ne peux que vous conseiller si le sujet vous intéresse.
Merci beaucoup Manon pour cette partie donc un petit peu plus générale où tu as abordé plusieurs thèmes qui sont tous relatifs à donc la sobriété numérique. Alors pour ce terme-là justement de sobriété numérique, donc tu nous as décrit pas mal d'exemples. Est-ce que tu ou vous en tant que groupe pourriez me donner une définition de ce qu'est la sobriété numérique, parce que c'est peut-être un terme que les personnes qui nous écoutent entendent pour la première fois. Et puis peut-être que cette question que je vous pose peut être accompagnée de la question de Léonie qui se demande si il y a des bonnes pratiques alors elle disait autre que le mail que l'on peut mettre en place à notre échelle. Voilà, est-ce que ça vous tente de donner une définition de la sobriété numérique et puis de penser à des bonnes pratiques que l'on peut mettre en place à notre échelle?
Alors en parlant de sobriété numérique, on parle du coup d'un fonctionnement qui ne va pas être juste de viser le plus de performance et le plus d'évolution possible tout le temps, d'aller toujours plus loin, mais de rester sur quelque chose qui plutôt nous suffit et convient à nos usages, et ne pas par exemple ne pas prendre des tailles de mémoire très très importantes quand on a besoin du coup de beaucoup moins. Ça va être ça du coup tout l'aspect sobre de cette démarche qui va être du coup de ne pas exagérer dans tous les usages du numérique.
Merci Manon, oui, c'est clair. Merci. Alors tu vois, Lucie qui se demande aussi si l'impact écologique du numérique pourrait être réduit en sensibilisant les utilisateurs aux enjeux et aux bonnes pratiques, ou bien sont-ils déjà assez sensibilisés?
Alors, en effet, l'impact écologique il pourrait être clairement réduit en sensibilisant les utilisateurs. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est déjà beaucoup sensibilisés par rapport à ça, peut-être pas encore assez. C'est encore en cours, notamment dans les entreprises. Le but maintenant, ce serait de mettre en œuvre ces pratiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, on sait tous que stocker plein de mails dans ses boîtes mail, ce n'est pas une bonne pratique. Et on a encore beaucoup à avoir beaucoup de mails en stock. C'est là toute la question en fait, de gestion, on est conscient de ces impacts, mais est-ce qu'on les applique? Du coup, on est sensibilisé, mais le but, ce serait vraiment de prendre en compte ces enjeux-là et du coup, de vraiment, à son échelle, être réellement actif.
Merci Manon, merci pour ces réponses. Et donc, Julie, tu vas pouvoir prendre la main pour conclure votre intervention, apporter mes réponses à tout ça. Tu es prête, Julie?
Oui.
Allez, à toi la main.
Alors, pour ma part, je vais analyser les différentes solutions qui sont à notre disposition pour résoudre cette problématique. Nous l'avons vu, les coûts du numérique ne sont plus contestables. Comme le souligne Laurie Malraux, chercheuse et enseignante à l'École des hautes études en santé publique, le numérique produit 3,5% des gaz à effet de serre de la planète, quand le trafic aérien n'en génère que 2%. Mais alors, quelles solutions adopter pour réduire les coûts du numérique de manière durable? Nous l'avons vu au travers des précédentes interventions. Il existe différentes solutions comme l'éco-conception, la sobriété numérique, les petits gestes à l'échelle individuelle ou à l'échelle de l'entreprise, mais aussi l'amélioration de l'efficacité technologique et bien d'autres. Cependant, ces solutions ne font pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Si on prend la vision optimiste, selon laquelle le problème du numérique se résoudrait par une meilleure efficacité technologique. Alors, le problème, c'est que dès 1961, la limite ultime de l'efficacité énergétique, aussi appelée barrière de Lander, a été mise en évidence. Autrement dit, nous savons déjà que l'optimisation technologique est limitée, et en ce sens, qu'elle ne pourra que diminuer légèrement une partie des coûts et surtout qu'une fois atteinte, les coûts ne dépendront plus que de notre manière de consommer et si on suit l'évolution actuelle, elle aurait plutôt tendance à augmenter. D'ailleurs, une étude des chercheurs Arnold Tucker et Maurice Butter démontre qu'une optimisation du système actuel n'aboutirait qu'à une division par deux des gaz à effet de serre. Sans compter que, comme l'a souligné Manon, le numérique est un réel levier de développement et on peut donc s'attendre dans les prochaines années à ce que les pays en développement se numérisent, augmentant encore les coûts du numérique. Alors, une autre solution qui est très largement diffusée auprès de la population est l'adoption des petits gestes propres, on vient d'en parler. Des études comme la face cachée du numérique de l'ADEME insistent sur ces gestes à adopter, notamment du fait que la plus grande partie des gaz à effet de serre du numérique est due aux équipements des consommateurs, 47% selon cette même étude. Il paraît logique de penser que c'est au consommateur de diminuer son impact écologique. Cependant, cette vision des choses n'est pas partagée par tout le monde et surtout pas par Fabrice Flipot, un enseignant-chercheur en grande école à l'Institut Midtelecom. Nous allons entendre un extrait d'une conférence intitulée « Enjeux économiques du numérique, état des lieux des connaissances et besoins interdisciplinaires de recherche » dans laquelle il détaille son point de vue sur cette culpabilisation du consommateur.
Dans le bouquin, donc, j'ai repris en fait les acteurs qu'on avait identifiés, enfin, les acteurs principaux qu'on avait travaillé en collectif interdisciplinaire dans le bouquin, dans l'étude de 2009. Donc les autorités publiques, les entreprises, les consommateurs et les ONG. Je vais aller très très vite, mais en gros, du côté des autorités publiques, c'est la numérisation à marche forcée, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gouvernement qui n'a pas pris des mesures pro-numériques, que ce soit de gauche ou que ce soit de droite, avec des effets que j'ai déjà évoqués. Donc le CREDOC en particulier agit comme une espèce d'agence marketing pour l'État en indiquant quels sont les leviers. Hein, quand j'ai lu tous les rapports du CREDOC depuis les premiers sur le numérique à la fin des années 90, on voit très bien que le CREDOC cherche comment trouver des moyens de convaincre les Français que le numérique c'est quand même très bon et donc indirectement c'est une étude de marché. Alors le consommateur, en gros, il n'a pas vraiment choisi, c'est-à-dire que quand on fait des études, on a fait des focus group il y a une dizaine d'années, bon, le consommateur il est au courant de rien, on lui dit c'est super, regardez, on peut commander tel truc, très bien, on ne lui parle pas de l'environnement, il n'est pas au courant. Donc aujourd'hui, il y a un retournement de situation, on commence à dire que le consommateur est coupable parce qu'il consomme trop de vidéos, mais enfin, tout a été fait pour qu'il en consomme sans lui dire quelles étaient les implications, et maintenant, on va lui expliquer que c'est lui qui pose problème. Donc, vous voyez, bon, il y a toute une problématique autour de ça, je vais très très vite, mais c'est un peu la question qui est derrière.
Alors, comme nous l'avons pu l'entendre, Fabrice Flipot dénonce l'impact des autres acteurs du numérique comme l'État, les entreprises ou encore les ONG. Leur impact est souvent mis de côté. En effet, le consommateur pense qu'il est maître de ses choix. Pour autant, ses architectures de choix et par extension son mode de vie sont manipulées. Par exemple, le développement du numérique au sein de nos sociétés est réalisé par le biais de politiques pro-numériques. Prenons par exemple le cas de la 5G. Son déploiement ne peut se réaliser qu'avec un apport financier important de l'État. L'État favorise ou non l'installation par le financement et en ce sens impacte l'évolution du numérique et promulgue des nouvelles pratiques à l'origine de modes de vie pro-numériques. La liberté du consommateur est ainsi très contrainte. Et c'est en ce sens que Fabrice Flipot considère que faire retomber la responsabilité exclusivement sur le choix individuel est une culpabilisation inutile et inefficace. Nous revenons ainsi à notre question initiale. Si le consommateur est manipulé et donc pas entièrement responsable, et si l'amélioration technologique ne suffit pas, alors que faut-il faire pour réduire les coûts du numérique ? Le problème réside dans la répartition des efforts entre les différents acteurs du numérique. L'amélioration de l'efficacité technologique est nécessaire, tout comme le changement de mode de vie, pour installer un changement durable et éviter les effets rebonds. Si l'État continue les mesures pro-numériques, l'utilisateur ne peut changer sa manière de consommer et les entreprises vont suivre les demandes du marché. En fait, actuellement, nous sommes dans une position d'attente. L'État attend des innovations de la part des entreprises pour les réguler. Les entreprises attendent que les consommateurs réclament et achètent ces innovations. Autrement dit, ils attendent un marché, tout simplement. Et les consommateurs attendent une régulation de l'État de peur de se faire manipuler. On a donc une position d'attente qui peut s'éterniser. Mais si l'un de ces acteurs entame le changement et si tous les autres acteurs ont la même volonté de résoudre cette problématique, eh bien les autres acteurs n'auront pas d'autre choix que de suivre le mouvement et la réduction des coûts du numérique sera entamée.
Merci beaucoup Julie pour cette belle conclusion. Alors, c'est vrai que c'est une curieuse position. Alors si on est, si en tant qu'État, entreprise, consommateur que nous sommes toutes et tous dans une position d'attente, qu'il est impossible de jouer tout seul le premier, alors est-ce que le changement que tu envisages serait un éventuel changement de rôle des acteurs en jeu, par exemple un État qui serait un État incitateur plutôt que régulateur? Quelles sont les pistes de changement justement pour essayer de dégeler un petit peu cette situation d'attente? Est-ce que quelques pistes sont déjà évoquées ou en route pour cela?
Alors, selon moi, il y aurait deux pistes vraiment envisageables, c'est-à-dire soit vraiment une volonté des consommateurs qui s'affirmerait au point de forcer les entreprises et l'État. Et pour ça, ce serait vraiment par le biais donc de ce qu'on fait, c'est-à-dire d'expliquer aux gens qu'il y a un problème, les inciter à vouloir changer les choses, mais surtout leur faire comprendre que là, actuellement, ils ne peuvent pas le faire tout seuls et qu'il faut qu'ils réclament que les choses changent. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que on l'a vu, l'État a fait des mesures pro-numérique. Il a incité beaucoup sa population à adopter le numérique, sauf que l'État, aujourd'hui, il est bien conscient de ce problème. Donc, il pourrait très bien entamer eh bien, la marche arrière, l'effet dans le sens inverse et être plutôt incitateur de nouvelles pratiques et donc inciter à la fois la population et les entreprises à changer.
Merci Julie. Oui, en effet, espérons cela. Alors, je relaie une question de Danaï qui revient juste sur un terme que tu as employé. Alors, serait-il possible d'exprimer plus précisément à quoi correspond cette barrière lambda? Alors, je pense que c'est la barrière de Landauer que tu as évoquée. Est-ce que tu voudrais bien revenir sur ce qu'est cette barrière-là, s'il te plaît?
Oui, donc, en fait, des calculs ont été faits qui ont permis en fait de déterminer à quel point un outil technologique peut être efficace d'un point de vue consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on dit souvent que si on améliore, si on améliore les batteries, etc., si on améliore ceci, cela, eh bien, ça va entraîner un téléphone à moins consommer. Mais on sait que ça va atteindre un certain seuil. Ce téléphone ne peut pas consommer en dessous de temps pour ces capacités-là. Donc en fait, cette barrière de Landauer, c'est vraiment cette limite, ce seuil qu'on ne pourra jamais dépasser. On peut l'atteindre, mais pas la dépasser.
Merci Julie, c'est très clair. Alors, j'ai une dernière question de Basile qui s'adresse à tous les quatre. Pour terminer donc votre intervention, Basile qui se demande si, vous savez, si le Covid a ralenti la progression des enjeux écologiques dans le numérique. Alors, la progression des enjeux écologiques, peut-être que tu veux dire le progrès en ce qui concerne la réduction des coûts écologiques dans le secteur du numérique. Est-ce que vous sentez de répondre à cette question? Je te vois, Lucas. Vas-y.
Bah, de mon point de vue, en fait, pas du tout. Enfin, si, complètement, justement, il a ralenti la progression parce qu'on a été face quasiment toutes les entreprises, surtout en France, enfin, en France du moins, qui se sont mis en télétravail, notamment les entreprises de services, etc. Donc, en fait, ça a mené à des nouvelles pratiques. Donc, le télétravail, la communication à distance. Donc il y a les caméras à distance qu'on voit énormément de données, le VoIP, donc la voix sur IP. Donc en fait, je pense que face à l'urgence de mettre en place ces pratiques, surtout qu'on n'a pas du tout anticipé tout ce qu'il fallait faire, oui bien sûr, ça a pour moi ralenti la progression de ces enjeux. Bon après, Je ne sais pas quand il y aura vraiment un retour à la normale, parce que je pense que dans les entreprises, il y a encore beaucoup de télétravail. Je pense qu'à un moment, on recommencera quand même à s'y intéresser fortement. Mais surtout en 2020, je pense qu'il y a eu un gros ralentissement de cette progression.
Et oui, alors tu vois, Léonie voudrait renchérir. Elle dit, même avec la forte augmentation du télétravail et des sites de vente en ligne, même si on se met tous à distance, peut-être que ça réduit quelques consommations énergétiques.
C'est vrai qu'il y a, en plus du télétravail, les sites de vente en ligne qui ont augmenté le nombre de livraisons, parce que les gens, du coup, commandaient, notamment sur Amazon, les commerces locaux étaient fermés. Il y a même des gens qui se faisaient livrer leurs courses. Donc oui, ça, c'est encore, des dommages collatéraux qui sont liés à l'augmentation des camions sur les routes, etc.
Non, vas-y, je t'en prie.
Je voulais rajouter que oui, c'est vrai qu'il est toujours assez difficile de faire la part des choses, justement, comparer les enjeux du numérique qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer, comme je l'ai dit précédemment, que du coup, faire rouler des véhicules, par exemple. Et du coup, c'est là toute la difficulté de savoir, du coup, pour le Covid, et même au niveau des études, les impacts n'ont pas forcément déjà été mesurés par rapport au Covid.
En effet, peut-être besoin d'un petit peu de temps pour étudier tout ça sérieusement. Et donc, ce sera éventuellement peut-être un sujet pour un prochain groupe d'étudiants de WE1, pour un prochain semestre, qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, merci beaucoup à tous les quatre pour votre travail sérieux pour aujourd'hui. Merci pour votre présentation. Alors, vous pourrez réécouter cette intervention et puis toutes les autres interventions des étudiants et étudiantes de WE1 en podcast sur graphite.net dans un premier temps, et puis sur l'instance Peertube à Peri.tube, chaîne WE1. Vous pourrez aussi aller voir sur librecours.net ce que l'on apprend en WE1, donc retrouver les supports de cours. Et puis, vous pouvez venir discuter avec nous sur team.picasoft.net, équipe WE1. On va maintenant faire une petite pause musicale. Et puis, un petit 20 minutes, ce sera le final de cette série d'interventions des étudiants et étudiantes de WE1. Nous écouterons Léo, Kat, Danaïl et Tom nous présenter leur travail sur les affordances des réseaux sociaux numériques. Merci encore à tous les quatre pour votre travail et puis à tout à l'heure sur Graphite.